qu'il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera aboli, c'est la mort, car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.
Donc, ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens a été retenu pour deux soirées sur lesquelles, si le Seigneur nous l'accorde, nous allons nous pencher. Pour deux raisons quand même, on y a fait allusion dans la prière, il y a tant d'erreurs, tant de voies dans ce monde, et ce chapitre nous redonne des bases essentielles, sur des bases fondamentales sur la vie chrétienne concernant l'Évangile, concernant aussi ce sujet de la résurrection. Et puis également, on y a également fait allusion donc dans la prière, eh bien pour nos courses, pour nos chemins aux uns et aux autres, c'est un chapitre qui est plein de fraîcheur, plein de douceur, plein de rafraîchissement. Les uns et les autres, dans nos histoires, on rencontre la mort, cette séparation, cette rupture avec des êtres chers. Même la mort qui nous semble s'inscrire dans le cycle de la vie, celle de nos parents, c'est le cycle de la vie, et c'est une logique de vie finalement, et on en a conscience, tous les humains en ont conscience. Une telle mort nous plonge aussi dans une épreuve, dans une nuit de nos foies. Alors les uns et les autres, même que l'on soit croyant, on rencontre dans nos chemins donc, ces ruptures, ces séparations, et pendant ces nuits de nos foies, on a besoin de la parole de vie, de la parole du Seigneur, pour nous apporter ce souffle de vie, ce souffle qui va nous mettre en mouvement, et ce souffle qui va nous guérir nos blessures. Donc il y avait d'une part ce souhait de revenir sur la doctrine, sur des choses fondamentales pour chacun d'entre nous, et aussi le souhait d'être rafraîchi par la parole de Dieu. Et le souhait que nous formulons, c'est que l'Esprit Saint ce soir, et vendredi soir, si le Seigneur n'est pas venu, si nous sommes là, que l'Esprit Saint nous donne le meilleur de Dieu, le meilleur de ce qui est de Christ, le meilleur de ce qui est d'en haut, et que les uns et les autres, les petits comme les grands, nous emportions après ces deux soirées quelque chose qui nous fasse du bien, et quelque chose qui soit utile pour nos marches, et surtout pour nos marches de foi. Donc on a choisi, on a vu en accord avec Frédéric dimanche, de couper ce chapitre en deux, jusqu'au verset 28, donc pour cette première soirée, on aimerait que l'on se tienne à ces versets, même si c'est toujours difficile de séparer la partie d'un chapitre avec la suite, mais pour qu'il y ait plus de cohésion, plus de clarté, que l'on se tienne à ces chapitres qui nous occupent aujourd'hui. Donc pour revenir dans ce chapitre, pour nous plonger dans ce chapitre, l'apôtre écrit à l'église de Corinthe, beaucoup le savent, pour rectifier, pour avertir dans les chapitres précédents cette église, mais aussi pour répondre à des questions qui lui avaient été posées concernant certaines questions que les Corinthiens se posaient. On voit certains chapitres qui commencent comme celui-ci, « Or, je vous fais savoir », ou pour ce qui est de, comme au chapitre 7, sauf erreur. Donc l'apôtre, en même temps qu'il avertit les saints de Corinthe, qui les exhorte, qui les édifie, eh bien il répond à leurs questions, et notamment dans ce chapitre 15, à une question qui avait été posée à l'apôtre, cette question de la résurrection. Parce que comme je l'ai dit, on rencontre la mort, on rencontre cette fracture dans nos vies, et puis se pose cette question finalement existentielle de la suite après la mort, de ce que deviennent nos bien-aimés. Et on voit que dans toutes les cultures, je l'ai vu récemment, dans toutes les cultures et aussi dans toutes les religions, eh bien il y a cette notion sous-jacente d'immortalité, de vie après la mort, et qui sont posées par l'être humain dans toutes les couches de la société, dans toutes les cultures, dans tous les temps finalement. Il y a eu cette tendance cette aspiration à une vie qui continue, à une vie éternelle, cette notion d'immortalité. On est poussé, je crois que l'être humain est poussé par cela, par l'amour de ce créateur, de cette puissance suprême que l'on sent, que l'on pressent, l'envie d'intimité avec cette puissance. Il y a aussi cette aspiration à la justice. Il faut reconnaître que la tombe nous nivelle tous. Lorsqu'on descend dans la tombe, on est tous au même niveau. Et pour des peuples qui ont été opprimés, c'est une justice. Donc il y a cette aspiration à cette vie qui continue après ce nivellement, après cette intervention de la justice. Et puis il y a quand même aussi ce souffle de vie qui est en chacun. On a eu tous peut-être des histoires de personnes qui avaient vécu des traumatismes, qui avaient perdu toute leur famille et qui avaient eu un instinct de vie, un instinct de survie. L'être humain a ce souffle en lui et cette aspiration vers une vie qui continue. Donc, ça explique que dans toutes les cultures, dans toutes les religions, il y a cette notion d'immortalité, cette notion de vie après la mort, et donc de résurrection ou de réincarnation, comme emploient certaines religions. Donc, l'apôtre, là, va répondre à ces Corinthiens qui se posent des questions quant à la résurrection. On voit dans ce chapitre qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, sauf erreur dans la deuxième à Timothée, il est aussi fait allusion au fait qu'il n'y a pas de résurrection, par Hyménée et Philète, les Sadducéens du temps du Seigneur niaient aussi la résurrection, et d'autres, je crois dans l'Épître aux Thessaloniciens, disent que le jour du Seigneur est déjà là. Donc il y avait de la confusion, et l'apôtre va éclaircir donc les Corinthiens sur ce sujet de la résurrection, ce qui va l'amener à faire un condensé de l'Évangile. Christ est mort, enseveli et ressuscité. C'est là. La base de l'Évangile, ce condensé merveilleux de l'Évangile, trois faits marquants, la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Et puis alors il va parler des témoignages qui ont été rendus, donc par rapport à cette résurrection, Dieu a maintenu des témoins de ce fait, et il va expliquer l'absurdité du raisonnement que la résurrection n'existe pas, notre foi est vaine, nous sommes plus misérables que tout. Après avoir expliqué qu'il est l'objet d'une grâce infinie. Et je crois que cela aussi, on a cette série de témoins, il y a d'autres témoins dans les évangiles, mais cela aussi dans nos vies chrétiennes, dans nos marches, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que l'on vit et qui nous montrent que Christ est vivant. On sait, on sent que Christ est vivant. Et à notre façon, à notre manière, on y est aussi témoin de la résurrection du Seigneur, de cette vie qui, en un sens et sous certains aspects, est éternelle.
Le début de ce chapitre est tout à fait magnifique, puisqu'il s'agit du sommaire, si l'on peut dire, de la vie chrétienne, depuis le moment où nous avons cru, jusqu'au moment où vraiment nous intégrons ce fait de la résurrection. Alors, il s'adresse bien sûr aux Corinthiens, mais pas que, puisqu'il nous dit au verset premier, « Je vous fais savoir, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu. » Donc, il s'adresse à tous ceux, en fait, qui ont reçu l'évangile, et dans lequel vous êtes, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Donc c'est vraiment extrêmement clair, extrêmement précis. Il s'agit d'un chapitre qui s'adresse à des croyants, des croyants qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, qui sont nés de nouveau et qui vont croire, bien sûr, en la résurrection. Pourquoi ? Parce que Christ est ressuscité, tout simplement. Et puis un peu plus loin, il leur dit tout le déroulement, si on peut dire, de cette vie. Je vous ai communiqué avant toute chose que j'ai aussi reçu, que Christ est mort. Il leur détaille l'importance de ces faits, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et puis qu'il a été vu de Céphas, puis des douze, ensuite de 500 plus 500 frères à la fois. Donc en même temps, il dit là qu'il n'est pas le seul, Paul, mais qu'il y a eu beaucoup de témoins de cette résurrection, tous les apôtres, plus de 500 frères à la fois.
Alors, le grand chapitre de la résurrection commence par « Je vous fais savoir faire l'évangile ». En fait, il n'y a pas d'évangile, s'il n'y a pas de résurrection. Les deux choses vont complètement ensemble. Il n'y a pas de christianisme sans résurrection, et c'est ce qu'il va essayer de montrer. Et il y a un petit mot-clé qui va nous aider, qui est à la fin du verset 2. Il leur dit, si vous tenez ferme la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Alors quand on lit ça un peu hors contexte, on se dit, oh la malheur, est-ce que ça veut dire qu'on peut croire et puis après on pourrait perdre son salut, croire en vain, croire pas tout à fait bien? Non. Le mot vain ou en vain, vous avez remarqué, il est beaucoup de fois dans notre chapitre. Fin du verset 2, croire en vain. Verset 10 au milieu, mais là, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Verset 14, notre prédication donc est vaine aussi, s'il n'y a pas de résurrection. La foi aussi est vaine, 14 à la fin. Et encore 17, et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine. Donc au tout début du chapitre, comme pour nous donner le goût déjà de son sujet, il dit, ben, l'évangile, il contient la résurrection, à moins que vous n'y ayez cru en vain, c'est-à-dire que si on enlève cette résurrection, tout va s'effondrer. Il n'y aura pas de foi, il n'y aura pas de prédication, il n'y aura pas de salut, tout est vain. Et par contre, sa grâce envers moi n'a pas été vaine, quand on met toutes les pièces du puzzle ensemble, alors c'est l'évangile, c'est le christianisme basé sur la résurrection.
L'apôtre Paul a donc ce fil directeur de la résurrection dans tout ce grand chapitre. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il commence par l'évangile que c'est un hors sujet. C'est pas parce qu'il parle de son travail au verset 10 qu'il est hors sujet. Non, non, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui est ordonné, Paul, dans son discours. Et peut-être que c'est un enseignement pour les prédicateurs. Il faudrait que nous, les prédicateurs, quand nous faisons une prédication, nous ayons un fil directeur. Et que nous n'allions pas d'un sujet à l'autre rebondissant et, bon, disant des choses justes, mais qui n'ont pas toujours de lien entre elles. Et alors, dans ce cas-là, il y a peu d'édification. Et Paul ne fait pas ça ici. Il a un fil directeur, et il le suit. S'il parle de l'évangile, c'est pour montrer que la résurrection est la base de cet évangile. Mais il ne développe pas, comme Jean l'a dit, il fait un sommaire. Dans la première épître à Timothée, chapitre 3, je crois, non, dans la deuxième, à Timothée, Paul dit à Timothée, est un modèle des saines paroles que tu as entendues de moi. Et dans la note en bas, nous avons un sommaire. Et ça, le sommaire, ça se pratique dans les sciences humaines. Un sommaire, c'est un résumé, mais qui n'est pas développé. Et d'ailleurs, c'est pas sûr que nous devions développer ces sommaires. Il faut parfois les laisser tels quels. Parce que si nous voulons des renseignements très précis, une information très précise sur l'évangile, ben, il faut aller dans l'Épître aux Romains, puisque c'est l'Évangile de Dieu touchant son Fils. Alors là, nous n'avons pas un sommaire, nous avons un développement. Mais ici, nous avons un sommaire. Dans le but d'arriver rapidement à son sujet, qu'est la résurrection. Et un peu plus loin, verset 10, il va parler de son travail, des travails des apôtres, mais c'est pas le sujet du service qui est devant lui. Non, non. Il faudrait aller dans la deuxième Corinthiens si nous voulons savoir comment il faut servir. Paul va nous l'enseigner dans d'autres passages. Mais il mentionne son service parce que ben, s'il n'y a pas de résurrection, ben, il a travaillé en vain. Les apôtres aussi. Donc, Paul nous enseigne à avoir, nous, les prédicateurs, un fil directeur. Alors, on sent qu'il va dans son sujet de la résurrection et de la résurrection du Seigneur Jésus et de son attestation. Parce que ça, c'est important. Que le Seigneur Jésus, déjà dans l'Évangile, on voit qu'il n'est pas ressuscité en catimini. Sans que une personne l'aurait vu, puis cette personne l'aurait rapporté à une autre qui n'aurait pas vu. Non, 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 pas du tout. Il fallait que la résurrection du Seigneur Jésus soit attestée. Dans l'Ancien Testament, il était dit par deux ou trois témoins, toute chose sera établie. Deux, c'est le témoignage suffisant, et trois, c'est le témoignage compétent. Mais là, il y en a sept. Il y a le grand témoin, les Écritures, et six petits témoins. Alors, les six, c'est Céphas, les 12, les 500 frères, Jacques, les apôtres, et puis l'apôtre Paul lui-même, qui se dit avorton, c'est-à-dire qu'il a vu le Seigneur Jésus avant l'Église, avant l'heure, comme un avorton, il voit le jour avant l'heure. Sept témoins de la résurrection du Seigneur Jésus. Le grand témoin, les Écritures, et six petits témoins. Alors, les Écritures, c'est quoi? Il n'y avait pas grand-chose. Quand Paul écrit l'épître aux Corinthiens, il n'y avait pas grand-chose d'écrit, les épîtres. Peut-être l'épître aux Thessaloniciens, mais enfin, très très peu. Alors, ces Écritures, c'est quoi? Ben, c'est les Écritures de l'Ancien Testament. Et nous connaissons très bien les passages concernant la mort du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, tous ces types lévitiques, tous ces sacrifices, mais nous connaissons peut-être beaucoup moins les passages concernant la résurrection du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament. Eh bien, Paul, pour ne parler que de lui, dans son discours à Antioche de Pisidie, il cite deux écritures de l'Ancien Testament pour attester de la résurrection du Seigneur Jésus. Je lis Acte 13. Acte 13, verset 33. Verset 34. Or, que Dieu l'ait ressuscité d'entre les morts pour ne devoir plus retourner à la corruption, il l'a dit, ainsi, je vous donnerai les grâces assurées de David, Ésaïe 45. D'ailleurs, ce passage est étonnant, parce que si nous avions lu ce passage dans Ésaïe 45, lequel d'entre nous aurait dit, ah mais oui, c'est un passage concernant la résurrection du Seigneur Jésus? Eh bien non. Mais pourquoi ce passage nous parle de la résurrection du Seigneur Jésus? Les grâces assurées de David. Eh bien, parce qu'aucune grâce ne pouvait nous être assurée, ni à David, ni à nous, sans la résurrection du Seigneur Jésus. Mais elles nous sont toutes assurées sur cette base. Et il cite encore une deuxième écriture. C'est pourquoi il dit aussi, dans un autre endroit, psaume 16, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Passage que Pierre avait cité aussi dans Acte 4. Donc on voit par ces deux passages, et il y en aurait d'autres, le témoignage des Écritures de l'Ancien Testament. Et Paul connaissait bien l'Ancien Testament. Il y fait 51 citations de l'Ancien Testament dans l'Épître aux Romains. Il en fait 16 dans l'Épître aux Corinthiens. C'est important, le témoignage des Écritures concernant la résurrection du Seigneur Jésus. Nous n'étions pas là au matin de Pâques. Et nous avons les Écritures. C'est pour ça que ça devait être attesté par des témoins. Et Pierre l'insiste en Acte 10. Nous sommes témoins de sa résurrection. Et quand il a fallu remplacer Judas, c'est le disciple qui devait le remplacer devait avoir été témoin de la résurrection. Il y a une attestation importante, plus que ce qui exigeait l'Ancien Testament, deux ou trois témoins pour la résurrection.
toujours en continuant cette présentation, je crois que c'est l'occasion de le faire aussi, donc ce sommaire de ce sujet de Paul qui est la résurrection, il n'y a aucun doute. Et donc le premier paragraphe que nous sommes en train de lire et commenter, et donc celui qui va jusqu'au verset 19. Donc ce premier paragraphe, il s'agit d'établir ce fait fondamental. Et donc avec les témoignages tels que ceci vient d'être rappelé par Lucien. Établir ce fait, c'était déjà l'évangile dans lequel il fallait tenir ferme. Et Paul dit bien, je vous dis cela, je vous l'ai communiqué avant toute chose, comme quelque chose d'essentiel, de fondamental. Les trois sujets, les trois fêtes, le Christ est mort, il a été enseveli, il a été ressuscité. Donc voilà, il s'agit d'établir ce fait, et c'est l'objet du premier paragraphe. Quels que soient les détails que l'on trouve dans ce premier paragraphe, il s'agit d'établir ce fait. Le paragraphe suivant qui nous occupera jusqu'au verset 28, c'est de répondre à la question « quand ?» Quand ? Et on détaillera cela. Les deux les autres questions qui seront posées et dans la suite de ce chapitre et étudiées, si Dieu le permet, vendredi, ça sera de répondre à la question « pourquoi ?» et « comment ?» Donc le schéma et la présentation de Paul est claire. Établir un fait. Ensuite, dire quand, puis comment et pourquoi.
En fait, le sujet, c'est la résurrection des morts.
Verset 3, je vous ai communiqué avant toute chose ce que j'ai aussi. Je vous ai communiqué ce que j'ai aussi reçu. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ce soir. C'est le passage de relais. Le psaume 71, verset 17, exprime cette pensée du passage du relais qui est très importante. Ô Dieu, tu m'as enseigné dès ma jeunesse et jusqu'ici j'ai annoncé tes merveilles et aussi jusqu'à la vieillesse et aux cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas jusqu'à ce que j'annonce ton bras à cette génération, ta puissance, à tous ceux qui viennent. On reçoit quelque chose et on le transmet. Et nous sommes, nous, eh bien, héritiers de ça. Il y a des gens qui ont vu, qui l'ont raconté à d'autres, mais la liste, ils sont nombreux à l'avoir vu. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit, et on lit. Nous sommes vraiment, c'est la suite, on est vraiment les héritiers de ces témoins qui ont vu le Seigneur et qui nous l'ont dit. Je vous ai communiqué ce que j'ai reçu. Le sommaire dont on a parlé, on sent bien qu'il tourne bien, il est mémorisable. Hein. On peut penser que c'était même peut-être un credo qui était récité par les premiers chrétiens. Donc, dans la partie, précisément, dans la partie « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il a été vu de Céphas puis des douze. » Ça serait ça, le petit credo de base. Et ensuite, il y a justement le mot « ensuite » qu'on va voir deux fois. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie, jusqu'à présent. Ensuite, il a été vu de Jacques. Donc là, c'est une deuxième partie qui est raccrochée. Mais le petit credo de base, qu'on a déjà rappelé, « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, enseveli, ressuscité le troisième jour. » On pourrait être étonné que dans ce credo, il n'y ait pas son éternité passée, il n'y ait pas sa vie merveilleuse, son incarnation de dévouement. Non, le credo, là, dont il est parlé, commence à sa mort pour nos péchés. On remarquera que c'est un peu ce que nous faisons aussi le dimanche, où le Seigneur nous invite à vraiment annoncer sa mort. Bien sûr, on parle de son incarnation, on parle de sa divinité, on parle de son existence éternelle, tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme offrande de gâteau, Père parfait, mais il y a un moment précis où il nous invite à partir de sa mort, qui est un point central, essentiel. Mort pour nos péchés. Dans l'évangile de Marc, Marc 8, Marc 9, Marc 10, à chaque fois vers le verset 30-31, moyen des motets. Marc 8, Marc 9, Marc 10, verset 30-31, il y avait trois prédications de Jésus par rapport à sa mort. Il ne parle jamais de son ensevelissement, il parle de sa mort et le troisième jour ressuscité. Là, l'ensevelissement est important. Le Seigneur en a parlé quand Marie l'a oint avec le parfum, il a dit, elle a bien fait de garder ça pour le jour de ma sépulture. Les Écritures en parlaient, Ésaïe 53, il a été avec le riche dans sa mort, et on sait que cet ensevelissement est très important, puisque le fait que des personnes l'aient pris et pris son corps dans leurs bras, Joseph d'Arimathée, Nicodème, ils ont porté le Créateur dans leurs bras, ils l'ont enveloppé de linge, ce sont des éléments très importants pour démontrer qu'il était bien mort. On sait qu'il y avait eu le coup de lance également, le sang qui a coulé, l'eau, ce sont des preuves très importantes, mais le fait qu'il ait été enseveli et qu'il ressuscite le troisième jour, les trois jours, sont importants aussi pour établir qu'il est mort. Puisque la résurrection et la victoire sur la mort, évidemment, ne sont donc de valeur que s'il est bien mort. Et c'est ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 1, « Je suis vivant et j'ai été mort. » Apocalypse chapitre 1, « J'ai été mort. »
C'est vrai qu'on ne pourra pas se pencher sur tous les versets de ce grand chapitre, ce n'est pas possible. Mais au verset 12, donc, Paul signale une erreur, on pourrait dire doctrinale, qui ne paraissait pas grave aux yeux des Corinthiens. Il semble qu'il n'ait pas tellement réagi, mais Paul a réagi. Donc il y a quelques-uns, pas tous, dans l'église à Corinthe, à l'intérieur de l'église à Corinthe. Ce n'est pas la rue grecque, disait probablement autre chose. Quoique, il faudrait aller voir si la sagesse grecque n'influençait pas justement les quelques-uns. En tout cas, il faisait une grave erreur, et dans ces versets, Paul leur présente la gravité des conséquences du fait de nier, de dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts, pas de résurrection corporelle. Et on peut employer l'image bien connue des dominos. Si un domino tombe, ça fait tomber tous les autres. Et c'est ça un peu ce qui se passe ici. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité, etc. Et nous en arrivons même à ne pas être sauvés. Donc c'est gravissime. Et vous les jeunes qui êtes ici, et nous aussi, nous allons entendre toutes sortes de choses concernant la mort et l'au-delà. Et nous entendons toutes sortes de choses. Alors, parce que la mort a posé un problème dans tous les temps. Et on a fait face à la mort comme on a pu. Alors, les Égyptiens, par exemple, ils ont fait face à la mort avec la momification. Et on nous présente des momies qui ont 35 siècles. Et on nous dit, ils sont bien conservés. Ah oui, la belle affaire. Ça, c'est la vie. Alors, certains pensent maintenant des moyens plus modernes, la cryogénisation. Mais d'autres, il y a d'autres philosophies. L'annihilation. Il n'y a plus rien après. Et il y en a d'autres qui... La réincarnation. Ça, c'est aussi une philosophie. Mais il y a d'autres philosophies qui sont autour de nous. Il y a quelques mois, nous entendions un scientifique de haut niveau qui était interviewé par un journaliste. Et le journaliste lui a dit, mais quand même, la mort, c'est un problème. Pourquoi la mort? Et le scientifique de haut niveau a répondu, ça c'est pas une bonne question. Pourquoi ne serait pas? Enfin, vous voyez bien, les animaux meurent, les plantes meurent, et les humains meurent, c'est le cycle normal. Et la parade à tout cela, c'est la reproduction. Eh oui, dans un sens, c'est vrai. Nos parents ont remplacé leurs parents, nous remplaçons nos parents, nos enfants vont nous remplacer, nos petits-enfants remplacer. Et c'est le cycle. Oui, mais pour Dieu, la solution de Dieu, c'est tout, aucune de ces philosophies, de ces palliatifs misérables. La solution de Dieu à cette énigme douloureuse qu'est la mort, c'est la résurrection. Mais c'est quoi la résurrection? Parce que personne n'a vu la résurrection de ses yeux physiques.
À part eux.
Oui.
À part eux tous.
À part eux tous. Oui, mais nous avons des témoignages. Alors, nous n'avons pas vu le phénomène. Et c'est vrai qu'il est étrange. Alors, il y a un chrétien qui a dit, ça peut-être nous aider, la mort est un désassemblage et la résurrection est un réassemblage des trois éléments, âme, corps et esprit. Ça peut nous aider. Dans quel corps, dans quelle situation, dans quel corps nous allons revenir à la vie? Peut-être le Seigneur Jésus ressuscité nous donne une indication. Je ne suis pas un esprit, mais j'ai de la chair et des os. Il ne parle pas du sang. Il l'a offert. Les os et la chair. Il pouvait manger, mais il n'était pas obligé de manger. Et le moment d'après, il rentre dans la chambre sans ouvrir la porte. Bon, c'est mystérieux tout ça. C'est mystérieux, le corps de résurrection. Comment sera-t-il? Nous n'expliquons pas tout ce soir. Mais nous sommes là à regarder les Écritures et à regarder ce grand fait majeur, la résurrection du Seigneur Jésus. Et de la résurrection du Seigneur Jésus dépend la résurrection de tous les croyants, même si nous ne pouvons pas expliquer finement dans quelle situation, dans quel corps nous serons. D'ailleurs, l'apôtre Jean, quand il parle de l'au-delà, il dit « ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ». Donc il ne s'agit pas non plus d'aller trop loin. Mais nous serons semblables au Seigneur. Et aussi ce passage. Donc nous n'expliquons pas tout, mais nous pouvons être consolés, rassurés, fortifiés dans notre foi, sans expliquer tout. Nous serons dans un corps merveilleux, on a donné aussi l'image peut-être terrestre de la chrysalide et du papillon. Bon, enfin ce sera merveilleux d'être semblable au Seigneur. Dans quelles conditions, nous ne pouvons pas l'expliquer.
Peut-être pour nous aider aussi un peu à comprendre, donner le juste sens des mots. C'est vrai que la langue française est un peu réductrice pour traduire réduction. Et dans nos esprits, ça fausse un peu.
Résurrection.
Oui, résurrection. Ça fausse un peu notre compréhension du mot. On commence par re. Et tous les mots dans le langage français où il y a ce préfixe « re », c'est une chose qui revient, qui se répète, qui est de nouveau comme avant. Redémarrer, c'est démarrer encore une fois. Repartir, c'est partir encore une fois. Et dans cette notion de résurrection, avec ce préfixe, on pense que c'est Christ qui va revenir encore une fois, mais comme avant. Et dans l'esprit des hommes et des femmes, la résurrection de Christ, c'était Christ comme avant. Et on voit pourtant un Seigneur qui ne se laisse pas toucher. Et lorsque les disciples d'Emmaüs comprennent qui il est, il a disparu. Et Lucien fait allusion au fait qu'il a traversé les portes. Donc c'est pas comme avant. Donc, qu'est-ce que veut dire résurrection, et surtout résurrection de Christ? Et le grec nous aide, nous éclaire beaucoup. Parce que dans l'original grec, il y a deux verbes qui sont employés, deux mots, qui est tepeo et aviorit, et qui veulent dire se lever, se mettre en mouvement. Et on le voit avec Lazare, qu'est-ce que dit le Seigneur de lui? Enlevez-lui les bandes et laissez-le aller. Et la fille de Jaïrus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève. Elle se lève. Donc, il y a dans ce mot résurrection, il y a cette mise en marche, il y a cette mise en mouvement. C'est pas revenir comme c'était autrefois. Le Seigneur, sa résurrection ne signifiait pas qu'il allait reprendre les commandes de sa petite troupe. Mais cette vie, ce souffle de vie, allait continuer, allait se lever. Et ça nous éclaircit aussi quant à la résurrection de Christ et qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous. Et moi, je trouve très important que dans ce passage, bon, il y a une série de témoins, mais ils y sont pas tous. Marie Magdala, faut pas oublier les sœurs, faut pas oublier les femmes. Elles sont précieuses aux yeux de Christ. C'est la première témoin de Christ ressuscité. Et elle est dans les quatre évangiles. Elle n'est pas dans cette liste. Et puis les femmes qui avaient avec. Et puis il y a un jeune homme dans le tombeau. Puis il y a un ange, puis il y a deux hommes, et puis il y a deux anges. Puis il y a les disciples d'Emmaüs, Cléopas et les disciples anonymes. Tantôt c'est dans la chambre où étaient les disciples. Un jour, les onze, donc les douze moins Judas. Un autre jour, les dix, les onze moins Thomas. Une fois c'est dans le chemin qui va à Emmaüs. Une fois c'est au bord du lac de Tibériade. Une fois c'est sur le sommet de la montagne de Galilée. Donc l'Esprit de Dieu, je crois qu'il nous conduit à ne pas nous fixer sur un endroit historique, sur un fait bête et méchant, mais sur ce que cela signifie, la résurrection du Christ. Cette mise en mouvement, ce souffle de vie. Christ ressuscité, on l'a chanté, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies? C'est quoi la vie éternelle? C'est une vie qu'on attrape une fois qu'on est mort? C'est justement la fraîcheur de ce chapitre. C'est Dieu qui vient nous dire, mais la mort, elle n'est pas une fin en soi. Et la vie éternelle ne va pas démarrer après vos morts physiques. On vous l'offre, tout de suite. Et c'est ça, la résurrection de Christ. Cette vie qui se lève, cette vie qui nous met en mouvement. Et c'est là où est toute la fraîcheur. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu, dans la parole, dans ce chapitre et puis dans les évangiles, nous focalise pas sur une situation, sur un lieu, sur des témoins figés. Non. Il y a ici et là plein d'éléments, de faits, de reportages qui se constellent les uns aux autres, qui laissent planer un fait qui est pas clair dans les détails, dans les indices, mais qui est clair et qui est réel dans ce qu'il apporte de changement et de transformation. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi, ce que la résurrection de Christ veut dire pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Un Christ vivant, un Christ qui souffle, un souffle de vie et d'amour. Et c'est vraiment ce qui est magnifique à retenir. Résurrection, se lever, se mettre en marche. Christ, il s'est levé, il s'est mis en marche. Il souffle sur l'humanité. Et je crois que c'est vraiment finalement une brèche, ce tombeau vide, cette pierre roulée, c'est une brèche dans nos évidences. On se met tous à raisonner devant les faits et on voit que l'apôtre va justement démonter les raisonnements des Corinthiens. Ben oui, bon, on part du principe que Christ n'est pas ressuscité. Ben, vous voyez, d'échelle en échelle, d'escalade en escalade, où on en arrive, on est misérable, notre foi est vaine, on est les plus malheureux des hommes. Et c'est pour ça qu'ils iront cette explication par ce fait. Oui, mais maintenant, Christ est ressuscité. Et ça change tout. Alors, dans l'optique des hommes et des femmes d'autrefois, Christ ressuscité, eh bien, c'était ce règne qui était établi. C'était ce royaume, c'était ce monde nouveau, c'était ces cœurs purs, ces cœurs régénérés. C'était ça. C'était ça. Et Dieu vient rompre cette évidence parce que, en mettant Christ au tombeau, ben, c'était la fin de tous ses espoirs. C'était la désespérance. Tout était, on retombait dans un monde où rien n'était nouveau sous le soleil. C'était plus fort qui allait gagner toujours. les plus faibles allaient être écrasés. Rien n'avait changé. Tous nos espoirs, eh bien, ils étaient dans le tombeau, dans le jardin. Et Dieu vient ouvrir une brèche, le tombeau est vide, la pierre est roulée. C'est un souffle nouveau. C'est un souffle nouveau qui souffle sur l'humanité. Un souffle nouveau. Et la résurrection du Christ souffle, un souffle de fraîcheur sur la race humaine. C'est pour cela que le grec est très précieux pour nous aider à comprendre. Il ne faut pas qu'on pense dans nos esprits que résurrection veut dire, eh bien, revenir à un état qui a été initial. C'est autre chose. C'est beaucoup plus grand. Dieu a pour nous beaucoup plus d'ambition qu'on en a nous.
On a un verset très important dans Romains 6, qui est un chapitre très très utile pour chacun de nous et dans lequel nous avons des certitudes absolues. Il nous est dit quoi au verset 5 ? Si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, c'est ce que nous sommes, que nous marchons maintenant à la nouveauté de vie, comme c'est dit juste avant, eh bien, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. C'est un verset extrêmement important.
Peut-être encore un commentaire. On touche avec ce qui vient d'être exprimé, sur des pensées qui sont difficiles. Et il faut que nous fassions attention à ne pas mettre nos esprits limités, notre intelligence limitée. Et ceci a été dit tout à l'heure dans la prière aussi. Il est évident qu'il y a des choses que nous pouvons comprendre, que nous pouvons savoir, et la parole nous donne ce qu'il nous faut. Alors, c'est une vérité absolument fondamentale, mais en même temps, le fait de la résurrection du Seigneur établit une chose principale, il est vivant. Et je crois que ce soit la forme qui pourrait nous arrêter, et on pourrait être troublé, je crois que ça serait dommage que nous le soyons, puisque paix profonde. Jésus est ressuscité. Le résultat pour nous est que nous soyons paisibles, que nous ayons la paix. Lorsque le Seigneur a vu les femmes dont nous avons parlé, en Matthieu 28, il leur dit « Je vous salue ». Je ne parlais pas le grec, mais j'ai lu la chose suivante. Ce mot « Je vous salue » veut dire « Réjouissez-vous ». Le Seigneur se présente à ces femmes en disant « Réjouissez-vous ». Autrement dit, il y va de notre paix, il y va de notre bonheur. Et le Seigneur lui-même, et c'est peut-être quelque chose que nous pourrions commenter, il a été vu des siens. Il n'a pas été vu du monde. Et je pense que c'est très important. La dernière fois où le monde a vu le Seigneur, c'est sur la croix. Là, le monde l'a vu, sur la croix. Mais après, le monde ne l'a plus. Le monde reverra le Seigneur lorsqu'il viendra, lorsqu'il reviendra avec les siens. Mais là, pour le moment, nous sommes dans cette phase où seulement les siens l'ont vu. Et donc, nous avons rappelé quelques-uns des siens qui l'ont vu. Mais au-delà de ceci, le Seigneur, lorsqu'il a vu Thomas, et c'était bien, il était ressuscité, et puis il dit à Thomas, mais bienheureux ceux qui ont vu et qui ont cru. Et ceci est bien important, c'est-à-dire que, voilà, vous avez vu, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il vous faut croire, et nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, croire, voir et croire. Aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. bien que nous ne l'ayons pas vu. Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne savait pas comment était son Rédempteur. Il ne savait pas donner une image de son Rédempteur. Mais il pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, nous tous ici, nous devons dire, pouvoir dire et nous reposer sur cela, je sais que mon Sauveur est vivant. Je ne l'ai pas vu, moi-même. Nous avons reçu, nous sommes les héritiers. Mais nous avons cette parole et nous avons cru. Et ceci est fondamental. Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Le verset 17 est surprenant. Si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ne nous a-t-on pas dit que nous étions sauvés par l'œuvre de la croix? Et là, l'apôtre dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés. Ce verset montre à l'évidence qu'il ne faut jamais séparer l'œuvre de la croix de la résurrection. Si le Seigneur Jésus était resté dans le tombeau, nous ne saurions rien de l'efficacité de l'œuvre de la croix. On a dit, le Seigneur Jésus a payé la dette à la croix de Golgotha. Souvent les péchés sont imagés par une dette, et quand dans les Épîtres il est dit, la rémission c'est la dette qui est remise. Eh bien, le Seigneur Jésus, pendant les trois heures sombres, a payé la dette de nos péchés, notre condition d'homme pécheur plus les fautes. Mais à la croix, nous avons la quittance que la dette est payée. La résurrection, nous avons dans la résurrection la quittance que la dette est payée. La résurrection du Seigneur Jésus, pour en comprendre un peu la beauté aussi, cette résurrection s'inscrit dans une histoire dramatique, on peut dire, qui remonte aux origines. Pour la résumer rapidement, Dieu avait fait l'homme et l'avait placé dans un jardin de délices. Il l'avait entouré de sa bonté, des signes de sa bonté. Il pouvait manger de tous les arbres, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et s'il ne devait pas manger de cet arbre-là, c'est qu'il n'était pas bon pour l'homme. Et il a entouré cette défense, cet interdit, une menace. Au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et voilà que l'homme et la femme, Adam et Ève, ont transgressé l'interdit. Et la sentence a été immédiate. Ils sont morts immédiatement. Parce que dans l'original, ceux qui connaissent l'original nous disent que, on pourrait traduire, ils mourir en mourant. C'est pas une action ponctuelle, c'est dans la durée. Donc la mort a deux aspects. Et dans les deux aspects, c'est la rupture d'une relation. D'abord, de la relation verticale avec Dieu, et qui se terminera, hélas, par la seconde mort, la séparation éternelle. Et le deuxième aspect de la mort, c'est la séparation horizontale, c'est-à-dire avec les semblables. Mais c'est toujours l'histoire d'une rupture de relation, soit avec Dieu, spirituelle avec Dieu, soit entre nous. Et le Seigneur Jésus, oui, alors, après cette sentence, c'est appliqué même dans la lignée de la foi, c'est-à-dire dans la lignée de ceux qui ont cru en la promesse rédemptrice de Dieu qu'il a promis dans le jardin même. Et on voit dans le chapitre 5 de la Genèse ce refrain, ce glas funèbre, et il mourut, et il mourut, et il mourut, c'est dans la lignée de la foi. Et pendant des siècles, toute l'humanité a été sous cette sentence, y compris les croyants. Et encore aujourd'hui, les croyants meurent comme tous les autres. Il n'y a pas de différence. Et alors, qui pouvait nous délivrer de cette terrible conséquence du péché, soit la mort éternelle, soit la mort physique. Qui c'est qui pouvait nous délivrer de cette puissance? Paul, en Romains 5, il dit la mort a régné depuis Adam, et elle règne en maître, en despote absolu. Et tout le monde doit se courber devant la mort. Personne n'a le choix. Eh bien, qui pouvait nous délivrer de cette puissance? Eh bien, Jésus est venu. Il s'est incarné. Il a pris une forme humaine et il a vécu notre vie sur la terre de la naissance à la mort. Et sur la croix, il a résolu, pendant les 3 heures sombres de la croix, il a résolu le premier problème, c'est-à-dire la rupture de relation avec Dieu. Maintenant, nous sommes libres devant Dieu, nous pouvons l'appeler Père, il n'y a pas d'obstacle, parce qu'il a enlevé les péchés, nos péchés. Et quand le Seigneur a dit « c'est accompli », bon, la première partie était faite. Mais il restait la seconde, c'est-à-dire la mort physique. Et là, le Seigneur a accepté de rentrer dans le domaine de la mort, et la mort qui était conséquence du péché, jugement de Dieu, salaire du péché, jugement de Dieu, et un troisième élément qui m'échappe. Et le Seigneur a accepté de rentrer dans le domaine de la mort, mais comme un prisonnier qui rentrerait dans une forteresse pour en montrer la faiblesse. Et au bout de 3 jours, il est sorti dans la puissance d'une vie impérissable. Par sa propre puissance, Dieu l'a ressuscité, il a été vivifié par l'Esprit. Et la résurrection du Seigneur Jésus est la démonstration de la puissance de Dieu envers cette conséquence même du péché. Et quand il est dit « le dernier ennemi sera aboli », c'est-à-dire la mort, je me demande l'ennemi de qui? Même peut-être de Dieu. Même si c'était un jugement de Dieu contre l'homme. Et c'était aussi une puissance de Satan. Et donc le Seigneur Jésus, dans la lumière du matin de Pâques, est sorti du tombeau. Quel événement majeur! On aime cette expression seule, qui est mentionnée seule dans l'évangile de Marc. Comme le soleil se levait. L'aube d'un jour nouveau, lui, sur ce monde. Pour les croyants uniquement. Puisque, on l'a dit, les incroyants, les juifs, rebelles, n'ont pas vu Jésus ressuscité. C'est un secret pour nous. Les croyants que Jésus est ressuscité, c'est une certitude qui est au fond de notre cœur, une certitude merveilleuse. Dieu a fait face à cette conséquence du péché originel de l'homme. Et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est le grand triomphe de Dieu vis-à-vis de la mort, des conséquences du péché. Oui, mais alors, quelqu'un dira, mais les croyants encore aujourd'hui meurent comme les autres? Ah oui, nous sommes tous mortels ce soir dans cette salle. Nous pouvons tous mourir là sur le champ. Mais la résurrection du Seigneur Jésus est la garantie de la résurrection de tous les croyants. C'est le gage, certain. Et là, nous avons plusieurs expressions, plusieurs. Il y a une expression qui est à peu près pareille en 1 Corinthiens 6 et en 2 Corinthiens 4. Elle est claire comme l'eau du torrent. Écoutez-la. Comme Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus, il nous ressuscitera par sa puissance. Un enfant de 12 ans qui règne peut comprendre. Lui, nous.
Un autre mot qu'on voit 3 fois dans le chapitre, c'est ceux qui se sont endormis. 6 à la fin, quelques-uns aussi sont endormis parmi les 500 frères, ça faisait environ 27 ans. Verset 18, ceux donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péri s'il n'y a pas de résurrection. Et verset 20, prémisse de ceux qui sont endormis. Si on retourne maintenant le verset 18, parce qu'on a compris que c'est un raisonnement par l'absurde, hein, il pousse le bouchon et il fait tomber le domino, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si on le retourne, ce verset. Ceux qui se sont endormis en Christ, et c'est volontaire qu'il utilise ce vocabulaire dans le chapitre de la résurrection, ceux qui se sont endormis en Christ n'ont pas péri. Ils n'ont pas péri parce que, comme tu viens de l'expliquer, le problème du péché a été réglé, donc ils ne sont plus dans leur péché. Et puis verset 19, ils n'ont pas péri parce que ce n'est pas pour cette vie seulement que nous avons espérance en Christ. Et après ce paragraphe qui se termine au 19, de son raisonnement par l'absurde, il va faire un paragraphe entier sur le quand, comme disait Jean-Philippe tout à l'heure, quand est-ce qu'il va ressusciter, quand est-ce que la résurrection a lieu. Puis la parenthèse se referme parce qu'au verset 29, on repart sur l'idée, et puis s'il n'y a pas de résurrection, alors pourquoi, etc. Mais là, c'est comme s'il en avait assez de sa négative, il veut crier la victoire. Il veut passer en positif, et il crie, mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts. Ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure, l'essentiel, c'est qu'il est vivant. L'essentiel, c'est qu'il est vivant. De ceux qui sont endormis, ce que tu viens de dire. Prémices, c'était la gerbe des prémices. Vous vous souvenez, Lévitique 23, les différentes fêtes à l'Éternel, et pour montrer que la moisson entière allait appartenir à Dieu, on prenait une gerbe et on la tournoyait devant Dieu comme pour dire c'est lui qui nous donne ça, c'est cette vie qui va nous être donnée. La gerbe était présentée comme pour dire toute la moisson appartient à Dieu et vient de Dieu. La gerbe était présenter le lendemain d'un sabbat, donc le lendemain d'un samedi, donc un dimanche, et il se trouve que dans le cas de la mort du Seigneur, ça s'était tombé sur le dimanche après la Pâque, le dimanche de la résurrection, donc son dimanche à lui, le premier, eh bien c'était la gerbe des prémices. Prémices, ça veut dire le premier, et puis il y en a qui vont suivre la première partie pour Dieu, et puis la suite. Eh bien, toute la moisson appartient à Dieu et tous les chrétiens vont être ressuscités. Il y a dans Jean 6 quand même quelque chose de frappant. Quand on lit Jean 6, on remarque peut-être pas tout de suite. Il y a quand même quatre fois des paroles fortes du Seigneur qui nous dit. Verset 39, Jean 6, 39, mais ce n'est pas la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 1. Verset 40, et moi je le ressusciterai au dernier jour. 2. Verset 44, nul ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. 3. Et 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est les prémices de ceux qui sont endormis, il l'a promis, il le fera. Ceux qui se sont endormis en Christ n'ont pas péri.
Et le premier passage que tu cites est absolument remarquable et touchant. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Nous voyons dans les Corinthiens que s'il n'y avait pas la résurrection, ben c'est les croyants qui ont espéré toute leur vie, comme beaucoup de frères et sœurs qui étaient là sur ces bancs, et ben finalement ils auraient tout perdu, ils seraient péris. Mais là c'est pas ça. C'est que le Seigneur Jésus perdrait quelque chose. Et ça c'est bouleversant ce verset. Et profondément rassurant, s'il n'y a pas de résurrection, mais le Seigneur Jésus perdrait, afin que je ne perde rien de tout ce que le Père m'a donné. Méditons ce verset.
Juste une remarque. Si nous lisons ce qui est écrit lors de l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27 et 28. Cela nous explique ce qui a été présenté, l'énergie de l'apôtre Paul a pour affirmer établir que Christ est ressuscité. À la fin donc du chapitre 27, on voit que les sacrificateurs juifs savaient très bien, avaient bien écouté
ce que le Seigneur a dit, qu'il ressusciterait le troisième jour. Et c'était leur grande crainte que cela arrive. Et qu'ont-ils fait ? Ils sont allés voir Pilate, et Pilate a dit, mais mettez des gardes. Et puis, au début de ce chapitre 28, on voit comment est-ce que le Seigneur est apparu. Jean-Philippe a dit tout à l'heure que le monde ne l'a pas vu. Et les gardes ne l'ont pas vu ressuscité. Mais ils ont entendu. Ils ont entendu ce que les anges ont dit et ont expliqué. Et qu'ont-ils fait ? Ils sont allés voir les sacrificateurs et ils ont dit, voilà ce que nous avons entendu. Et les sacrificateurs ont été effrayés. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de dire aux gardes, vous vous taisez. Et pour cela, on vous paie. C'était une hypocrisie et un mensonge entier. Mais il nous est dit aussi, dans ce même chapitre, que le fait donc que ces gardes devaient répandre, c'est-à-dire que les disciples avaient enlevé le Seigneur et l'avaient mis ailleurs, eh bien, il nous est dit que ce qui avait été dit par ces gardes était resté dans les esprits des Juifs jusqu'à ce jour, dit Matthieu, c'est-à-dire le jour où il écrit cet évangile, bien des années après. Il y avait donc au sein de la communauté juive, non seulement bien sûr à Jérusalem, mais aussi dans tout le rayonnement qu'ils avaient en Asie et en Europe, puisque ici les Corinthiens, il s'agit des Corinthiens, cela avait encore cours. Non, c'est une tromperie. Les disciples l'ont caché. Alors Paul dit non. Maintenant, c'est trop. Alors, il ne revient pas sur ce mensonge, mais il dit, voilà, il y en a qui l'ont vu. Ce sont les chrétiens qui l'ont vu. Et ces juifs essayaient, et c'est ce qui, me semble-t-il, explique ce qu'on a entre le verset 10 et le verset 17, c'est-à-dire cette fausse idée qu'il n'y a pas de résurrection. Il me semble que cela vient de là. Ils étaient troublés par ce fait, mais il n'y a aucun incrédule qui l'a vu. Et les autorités juives disent même, eh bien, c'est les disciples du Seigneur qui l'ont mis ailleurs. Ils étaient complètement troublés. Et ce chapitre est lumineux et leur montre, et je reviens juste sur ce que Frédéric vient de dire, ce mot endormi est tout de suite dit après donc le témoignage de ceux qui l'ont vu. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'apôtre emploie tout de suite ce mot ? Eh bien, il leur montre que le grand fait de la vie éternelle était établi. Et ceux qui ont la vie éternelle ne meurent plus. Certes, ils passent par la mort, mais leur esprit, ce qu'est même la vie, cette vie éternelle donnée par le Seigneur, dont il parle plusieurs fois dans l'évangile de Jean et dans le second verset donc, que Frédéric a cité de cet évangile, c'est parce qu'ils ont la vie éternelle qu'ils se sont endormis. Et ça, c'est une assurance d'un fondement extraordinaire pour notre vie chrétienne.
verset 21, car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi qu'est la résurrection des morts. Dans l'Adam, tous meurent. De même aussi, dans le Christ, tous seront rendus vivants. Donc il y a une symétrie entre les deux. Adam a péché, tous meurent. C'est le Seigneur Jésus avait besoin d'être un homme pour pouvoir mourir et par la résurrection pour montrer que la victoire était bonne, que le problème de base était réglé. Ça ne veut pas dire ici que dans le Christ tous seront rendus vivants au sens résurrection pour tous les hommes. Et donc, salut pour tous, c'est pas le sens du verset, bien sûr, mais dans le Christ, il se concentre ici sur les chrétiens, même si maintenant il va détailler comment tout ça va se passer, et quand, dans le camp. Donc, on a compris, chacun dans son propre rang, les prémices. Donc, ça veut dire le premier Christ, alors c'était pas le premier au sens qu'il y a eu d'autres résurrections, seulement c'était la première résurrection qui n'était pas suivie par une autre mort. On pense bien que celle qui est la fille de Jaïrus ou le garçon de Naïn, ils sont morts après Lazare. Là, c'est vraiment la première résurrection de cette nouvelle nature. Donc, c'est lui le premier, le plus important, le numéro un, prémisse, Christ. Puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Ensuite, la fin. Donc, trois étapes. Alors, c'est important d'entendre aussi l'enseignement du Seigneur sur le sujet, parce que lui a déjà dit au chapitre 5 de Jean, Jean 5, 25, Jean 5, 25, en vérité, je vous dis que l'heure vient, et elle est maintenant, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient, verset 28, en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ils sortiront. Ceux qui auront pratiqué le bien en résurrection de vie, et ceux qui auront fait le mal en résurrection de jugement. Donc, Seigneur Jésus dit clairement qu'il y a deux résurrections. Une résurrection de vie, et une résurrection de jugement. Là, on a l'apôtre Paul, et puis Apocalypse 20, c'est l'apôtre Jean qui complète. Apocalypse 20, verset 5, verset 4 à la fin, Apocalypse 20, verset 4 à la fin, « Ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans, le reste des morts ne vécut pas, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est ici la première résurrection, bienheureux, et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Donc, le Seigneur Jésus montre qu'il y a deux résurrections. L'apôtre Paul nous montre qu'il y a trois étapes. Les prémices, ensuite, ceux qui sont du Christ à sa venue, puis la fin. Et ça, c'est aligné avec Apocalypse 20. C'est l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, ils se sont mis d'accord, on va dire. C'est incroyable, cette unité de l'enseignement qui dit clairement qu'il y a une résurrection qui est la résurrection de vie. Bienheureux ceux qui en parlent à cette résurrection-là. Et puis, il y a la suivante, c'est la fin. Et c'est ceux qui n'ont pas part à la première résurrection. Donc, c'est le jugement. Alors, vous allez me dire, oui, mais il en manque une. Non. Il faut rester simple. Christ, hein, ensuite les siens, et ensuite la fin. Pour la résurrection des siens, il y a peut-être effectivement plusieurs étapes, nous en reconnaissons au moins deux, l'une qui serait un moment où le Seigneur vient enlever son Église, et il emmène les vivants, parce que si le Seigneur a vaincu la mort, ça ne sert à rien, tout le monde passe par la mort pour aller au ciel, donc la notion d'enlèvement des vivants fait vraiment partie, bien sûr, de la victoire sur la mort, hein, s'il y a quelque chose de simple. Comprendre, c'est ça. Donc la mort est vaincue, et bien c'est normal qu'on puisse aller au ciel en direct. Ça, c'est l'enlèvement des vivants qui s'accompagnera de la résurrection des saints endormis, probablement aussi ceux de l'Ancien Testament. Et puis, il y a une deuxième résurrection juste avant le millénium, pour les justes aussi, donc c'est pour ça que c'est la même, ceux du Christ, à sa venue. Et là, les deux venues sont unifiées en une seule, pour faire simple, on va dire, où il y aura probablement la résurrection des fidèles et des martyrs qui seront morts pendant la grande tribulation. Mais même si on se trompait sur l'enseignement sur la tribulation des prophéties, même si on se trompait, il y a quelque chose qui est simple et qui est dans nos trois textes. Jean, cité donc, c'est les paroles de Jésus, Paul et Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, c'est qu'il y a une résurrection pour les justes qui est séparée par le millénium d'une résurrection à la fin, qui est la fin du monde ou la fin des résurrections. Et là, il n'y a pas de doute.
Peut-être pour conclure, je ne sais pas si vous aurez voulu arriver. Ce verset 23, donc, les prémices Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue. Alors, entre ces deux éléments, il y a 2000 ans, nous nous situons après le point-virgule, chronologiquement, parce que là, c'est pas spirituellement, c'est nous avons de la chronologie magistrale. Enfin, c'est prophétique, mais Dieu est le maître du temps, gouverne le temps. Nous sommes, Dieu est hors du temps et il gouverne le temps. Et nous sommes dans le temps, dans la chronologie. Et là, nous assistons à cette, par l'Esprit de Dieu, dirigeant Paul, il nous fait un résumé magistral, chronologique des choses. Il nous le dit à l'avance. Évidemment, si on n'a pas la foi en la parole de Dieu, c'est de la folie. Mais nous croyons la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus ressuscité, il y a 2000 ans, les croyants vont l'être. Alors il va développer cette deuxième partie de verset 23, il va la développer à la fin du chapitre, verset 51, 51 à 53, et puis dans 1 Thessaloniciens 4. Ce sont les deux grands passage qui nous montre comment ça va se passer à sa venue, ou plus exactement à son retour. Les croyants, il ressuscitera les croyants et il changera les vivants et nous partirons à sa rencontre. Ça, c'est un secret de famille pour les croyants. Les incroyants, faut pas qu'ils commencent par ça. Faut qu'ils commencent par croire à l'évangile. Et ça, c'est un secret pour les croyants, et c'est pour l'écrire à des croyants.
Lucien, tu parlais du refrain terrible qu'on trouvait dans la Genèse, au chapitre 5.
Mais nous avons une exception notable, remarquable, merveilleuse, celle d'Enoch. Et je pense que quelqu'un a dit que dans la Genèse, on avait toute la pépinière de Dieu, déjà la pépinière des pensées de Dieu. Et déjà dans le premier chapitre de la Genèse, on voit qu'il y eut soir et qu'il y eut matin. Et c'est très beau parce que Dieu termine par le matin. À vision d'homme, c'est toujours il nous semble que c'est toujours le sombre, le noir qui termine. Notamment pas pour la vie terrestre, mais en fait, la pensée de Dieu, déjà dans la Genèse, c'est de terminer par le matin de la résurrection.
Juste une pensée pour terminer sur le fait que le Seigneur Jésus est vivant. C'est quelque chose qui doit nous donner beaucoup de force, de savoir qu'on a un sauveur vivant, un ami vivant qui est toujours prêt à nous écouter, toujours prêt à nous protéger, qui veille sur nous. Et puis, c'est aussi pour Quant au témoignage par rapport à d'autres religions, c'est une force aussi de savoir qu'on a un sauveur vivant. D'autres religions, ou peut-être dans l'islam, parler d'un prophète qui est mort après nous. Notre sauveur, il est vivant. Et puis que Dieu nous aide aussi à le laisser vivre en chacun de nous.
Verset du 201.
201, premier verset.
Plus de terreur, plus de détresse. strophe 4 et 5 du 47.
47, strophe 4 et 5.